du début du XXe siècle en France, en ce qui concerne le protestantisme français. Et donc nous étions arrivés à la fin de l'épopée de la brigade, et notamment l'unité de l'ERF, l'Église réformée de France, qui se crée à cette période-là. Les tractations étaient déjà en cours depuis un certain nombre d'années, et elles aboutissent donc entre les années 1936 et 1938. Et alors donc se crée cette entité qui comprend les deux unions d'Églises réformées, qui étaient séparées depuis 1872, et les églises méthodistes, qui sont très peu nombreuses en France. Les églises libres refusent de rejoindre l'Église réformée, bien qu'il y ait il n'y ait plus les raisons qui avaient amené la division donc en son temps, c'est-à-dire le fait que maintenant, depuis les lois de 1905, toutes les églises sont séparées de l'État. Et alors, au sein des deux unions d'églises réformées, il y a une nouvelle scission qui est créée par cette formation d'églises réformées. 40 églises refusent, il faut leur dire qu'ils prennent des clés, c'est vraiment embêtant. 40 églises refusent l'union et créent une union d'églises autre qui se veut évangélique. En effet, ces 40 églises reprochent à la nouvelle entité qui est ainsi créée, l'Église réformée de France, d'avoir ouvert la porte au libéralisme. Bon, c'était finalement le problème qui était sous-jacent dans toute cette affaire. La déclaration de foi de 1872 avait provoqué précisément une prise de distance de la part de ceux qui, pour des raisons de libéralisme, avaient refusé donc cette déclaration de 1872. Le libéralisme battait son plein à cette époque-là. C'était l'époque des grands bouleversements en matière théologique, la théorie des sources et ces choses-là. Et un certain nombre d'églises réformées avaient voulu entrer à fond dans cette voie-là. Voilà ce que disait la déclaration de 1872, au moment où elle reprend la suite de ses synodes interrompus depuis tant d'années. L'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de rendre grâce à Dieu, de témoigner son amour à Jésus-Christ, son divin chef, qui l'a soutenu et consolé dans tout le cours des épreuves. Elle déclare par l'organe de ses représentants qu'elle reste fidèle au principe de foi et de liberté sur laquelle elle a été fondée. Avec ses pères et ses martyrs, dans la confession de foi de La Rochelle, donc confession profondément évangélique, avec toutes les églises de la Réformation, dans leurs divers symboles, elle proclame l'autorité souveraine des saintes écritures en matière de foi et le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle conserve donc, elle maintient à la base de son enseignement, de son culte et de sa discipline, les grands faits chrétiens représentés dans ses sacrements, célébrés par ses solennités religieuses, exprimés dans ses liturgies, notamment dans la confession des péchés, dans le symbole des apôtres et dans la liturgie de la Sainte Seine. Donc ici, la déclaration de 1872 réaffirmait l'ancrage sur notamment la confession de foi de La Rochelle. Or, les libéraux estimaient que la confession de foi de La Rochelle était dépassée. Et par conséquent, se sont séparés des églises réformées qui entendaient rester fidèles à la confession de foi de La Rochelle. En 1836, on aboutit à une solution de compromis entre les deux tendances, la tendance évangélique et la tendance libérale. Et voici ce qu'est cette déclaration de 1836. Alors, on reprend à peu près la même formulation. Au moment où elle confesse sa foi en Dieu souverain et au Christ sauveur, l'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa reconnaissance et de son adoration. Fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée, dans la communion d'Église universelle, elle affirme la perpétuité de la foi chrétienne, au travers de ces expressions successives, dont le symbole des apôtres, les symboles œcuméniques, les confessions de foi de la Réforme, notamment la confession de La Rochelle. Elle en trouve sa source dans la révélation centrale de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec ses pères et ses martyrs, avec toutes les églises issues de la Réforme, elle affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures telle que la fonde, écoutez bien ça, telle que la fonde le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça paraît anodin, mais ça veut dire que ce qui est normatif, ce n'est plus la lettre de l'Écriture, mais le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça veut dire la subjectivité de celui qui lit l'Écriture et reconnaît en elle la règle de la foi et de la vie. Et voyez-vous, quelqu'un qui lit rapidement ce texte dit « Mais oui, mais c'est tout à fait évangélique, c'est tout à fait bien, etc. » Et on ne se rend pas compte que là, il y a le piège, il y a le venin du serpent. Et la porte est ouverte. Elle proclame devant la déchéance de l'homme le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a été livré à elle par nos offenses, qui est ressuscité pour notre justification. Elle met à la base de son enseignement les grands faits chrétiens affirmés dans l'Évangile, présentés par ses sacrements, célébrés dans ses solennités religieuses, exprimés dans sa liturgie. Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce au non-pécheur l'évangile de la repentance et du pardon, la nouvelle naissance, la sainteté de la vie éternelle. Voilà, déclaration de foi absolument évangélique, sauf la petite inclusion. Alors, à condition qu'il y ait cette inclusion, les libéraux acceptent de signer la confession de foi. Néanmoins, ils présentent une autre exigence. Lors de la consécration des pasteurs, on demande au nouveau pasteur s'il s'engage solennellement devant l'Église, etc., à confesser Jésus-Christ, à prêcher la parole de Dieu, telle qu'elle se trouve contenue dans l'Écriture, sans, et c'est ce qu'exigent les libéraux, sans toutefois vous attacher à la lettre de l'Écriture. Ça rejoint justement ce qu'on a dit ici. Et les orthodoxes, les évangéliques, si vous voulez, acceptent cela, ne voyons pas le piège. Encore une fois, 40 églises ont vu le piège et refusent de signer cette déclaration de foi. Ainsi, donc, en 1938, la majorité passe outre à l'opposition de ces 40 églises, qui sont essentiellement des églises d'ailleurs situées dans le Midi, dans les Cévennes, enfin des églises qui ont un passé, on pourrait dire, protestant très fort, n'est-ce pas ? Et qui vont créer une nouvelle union d'églises, l'union des églises réformées et évangéliques indépendantes, E-R-E-I, qui existe encore aujourd'hui et qui est représentée dans la Fédération protestante de France, et qui se veut à la fois, si vous voulez, très, très évangélique, ça veut dire croit à l'autorité de l'Écriture sans l'illumination intérieure du Saint-Esprit, comme il dit. Enfin, bon, bien sûr, c'est toujours le Saint-Esprit qui illumine l'Écriture, ça c'est un fait. Mais enfin, il faut savoir ce qu'on entend par là, quoi. Pour eux, c'est clair. Et eux veulent s'attacher à la lettre, justement, contrairement aux autres. Bon. Quand on voit ce qu'avec le temps est devenue l'Église réformée de France, on se rend compte que ceux qui ont refusé l'union de 1938 avaient 100% raison. Les REI, les Églises réformées évangéliques indépendantes, ont créé, après la guerre, et plus particulièrement dans les années 1969, a été recréée une faculté de théologie évangélique, qui est la faculté d'Aix-en-Provence, qui est une faculté de théologie réformée, mais avec cette tendance évangélique, et qui a pour vocation essentielle d'être l'organe de réflexion théologique des REI. Bien sûr, son rayonnement dépasse le cadre des REI. Il y a des étudiants qui sortent de d'Aix et qui deviennent pasteurs de l'Église réformée de France, tout simplement, d'autres qui deviennent pasteurs d'autres unions d'églises, voire même, bien que ce ne soit pas très fréquent, des églises baptistes ou d'autres églises évangéliques, et aussi, bien sûr, des églises libres, l'Union des églises libres. La faculté d'Aix et les RUI se veulent aussi calvinistes. Elles lisent l'écriture quand même avec dans la tradition de Calvin, avec donc automatiquement un accent très fort mis sur les notions de prédestination, des notions qui pour nous seraient, quand elles sont poussées à l'extrême, un petit peu discutables. Un homme comme Jean-Marc Berthoud, qui a été interviewé dans le dernier Expérience, appartient au courant qui tourne autour de la faculté d'Aix. Son frère, Pierre Berthoud, en est, si je ne m'abuse, à l'heure actuelle, le doyen de cette faculté d'Aix-en-Provence. Maintenant, voyons un autre chapitre, l'évangélisation du nord de la France au travers de la mission populaire. La mission populaire est le nom que prend, au début du siècle, l'ancienne mission MacHall. La mission MacHall avait été fondée au siècle dernier, on a vu ça quand on étudiait le 19e siècle, par justement un Écossais du nom de MacHall, qui est venu évangéliser les milieux populaires français. Un peu, si vous voulez, à la manière de l'Armée du Salut. L'inspiration de la mission MacHall était l'Armée du Salut de William Booth. Au début du siècle, la mission MacHall végète un peu. Et c'est dans le nord de la France, qui est marqué par une importante présence ouvrière, que la mission populaire va reprendre son essor sous la direction d'un homme de Dieu hors du commun, qui est celui qu'on appellera Monsieur Nick, ou encore, de manière un peu familière, le Père Nick. Ces dates, 1897-1954. C'est un homme qui est originaire justement des Cévennes et qui devient pasteur dans les Cévennes en 1880, au moment où il termine ses études de théologie. Le jeune Nick est profondément marqué par les réveils qui ont marqué le 19e siècle finissant. Et il vit lui-même dans un réveil religieux. Il va épouser donc une jeune fille qui est originaire du Vigan, donc dans les Cévennes également. Et le jeune couple a le désir ardent de servir Dieu. Dieu est véritablement la priorité totale de leur vie. Et après avoir donc exercé son ministère quelque temps dans les Cévennes, Monsieur Nick accepte l'appel de l'église réformée de Fives-Lille, dans la banlieue lilloise, pour évangéliser les villes du Nord. Il y voit pour lui une occasion extraordinaire d'évangéliser les milieux populaires, les milieux ouvriers, qui sont particulièrement délaissés. C'est l'époque où règne dans le pays noir du nord de la France, sans vouloir faire de jeu de mots mal placé, une misère noire. Et c'est un terrain évidemment propice pour l'épanouissement des idées révolutionnaires, socialisme, communisme, marxisme et athéisme sous toutes ses formes. Le Père Nick accepte, enfin ce n'est pas encore le Père Nick à cette époque-là, il est encore jeune, Monsieur Nick, disons, accepte de relever le défi de cette situation. Il arrive donc en 1925 dans le pays noir du nord de la France. Bien avant cela, en 1905, il arrive là-bas. Et là, sa première année à Fives, ils se rendent bien compte que amener les ouvriers dans le temple de Lille, c'est quasiment impossible. Alors, il reprend aussi les principes de William Booth, les principes de la mission MacHall. Il loue une salle de café à Fives et il commence des réunions dans une salle de café. Et alors, il va déployer pendant des dizaines d'années une activité absolument débordante dans tous les domaines. Il touchera absolument à tout. C'est ainsi qu'il ramasse les enfants dans les rues et le jeudi après-midi, il fait des réunions pour les enfants. Les enfants donc défavorisés, il se rend compte que ces enfants, après avoir prêché l'évangile, souvent ils ont le ventre creux. Alors, dans la sacristie du temple, il leur offre un goûter. Et au moins, bon, ben, quand ils viennent à l'instruction biblique le jeudi après-midi, bien, ils ont au moins un bon repas. En 1904, entre 1900 et 1904, il va créer un foyer, ce qu'il appelle le foyer du peuple. C'est une salle qu'il a louée, puis qu'il achète, où il reçoit tous ceux qui ont des besoins, à la fois spirituels et matériels. C'est une sorte de soupe populaire où viennent manger ceux qui n'ont pas de quoi manger, où ils distribuent des vêtements, ils distribuent de la nourriture, un petit peu ce que font les restaurants du cœur, si vous voulez, maintenant. Et puis alors, Lepernic aussi est un homme qui va se lancer à fond dans l'évangélisation des rues, si j'ose dire. Il prêche dans les foires. Il va dans les foires, sur les marchés. Et là, il monte sur des caisses de légumes ou sur des chaises. Et puis alors, c'est un homme qui est en même temps un érudit extraordinaire et une connaissance du grec formidable. Et il prêchera toujours directement depuis le grec. Il ouvre sur les foires, sur les marchés, dans les cafés, son Nouveau Testament grec. Et il lit l'Évangile directement, traduisant immédiatement depuis le grec. Il fera toujours comme ça. Et alors, il a un don extraordinaire de toucher les foules. C'est un homme rempli d'une grande bonté, d'un grand rayonnement. Et les gens sont bouleversés. Se produit un petit peu ce qui s'est passé dans les réveils de William Booth, de McCall, etc. Il y a des conversions immédiates. Là, les gens se mettent à genoux sur le trottoir, pleurant sur leurs péchés. Sunik passe au milieu d'eux, les exhorte, distribue l'évangile, puis les rassemble après dans le foyer, pas dans le temple, dans le foyer, là. Il fait du colportage aussi, beaucoup de colportage. C'est l'époque où beaucoup d'églises font le colportage. C'est d'ailleurs une institution plus ou moins habituelle. Des colporteurs qui ne vendent pas simplement l'évangile, qui vendent de tout, qui vendent à domicile, de la mercerie, de toutes sortes de choses, un peu de littérature diverse, enfin de tout. Et donc, c'est l'époque des colporteurs chrétiens, il y en a en Bretagne aussi, n'est-ce pas ? Soit des gens qui vont avec des paniers, soit carrément, ils ont des petites charrettes tirées par des animaux de trait et vont de maison en maison, proposant justement des objets divers et en plus l'évangile. Lepernic, lui, ne propose que l'évangile. C'est l'époque aussi où naissent deux mouvements qui sont appelés à un grand essor. D'une part, le scoutisme avec Baden-Powell, mais en France avec le pasteur Samuelson. Et en 1911, donc, les premières troupes d'éclaireurs et d'éclaireuses unionistes, comme on les appelle à cette époque-là, naissent sur le sol de la France. Monsieur Nick est tout de suite séduit par l'idée du scoutisme et il crée, à Fives-Lille, une des premières troupes d'éclaireurs et d'éclaireuses de France. Il va aussi, c'est l'époque aussi où naît le mouvement de la Croix-Bleue, sous l'instigation du pasteur Rochat, qui est originaire de Suisse, et qui se rend compte de la grande détresse des buveurs. Alors, il va créer un mouvement de tempérance, d'abstinence, de relèvement des buveurs sur la base de l'Évangile, en proposant deux choses. D'une part, un accompagnement des buveurs sur le principe suivant, que le buveur et celui qui vient à son secours s'engagent ensemble pour une courte période d'abstinence de tout alcool. Et le pasteur Rochat fait signer à ses buveurs un papier dans lequel il dit « Je m'engage avec l'aide de Dieu à m'abstenir de toute boisson alcoolisée, vin, cidre, alcool, bière, etc. pendant une durée de 24 heures, par exemple. » Au début, il faut prendre des durées extrêmement courtes parce que les gens ne sont pas capables de tenir. Bon. Si au bout de 24 heures, l'individu a tenu ferme, on dit, ben, tu vois, tu peux rester 24 heures sans boire. Tu pourrais peut-être signer maintenant pour 48 heures. Et on fait signer un deuxième papier pour 48 heures, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'engagement à vie. car Rocha s'est rendu compte qu'un buveur qui a eu donc un passé chargé dans ce domaine-là peut retomber dans l'alcoolisme en ne buvant que quelques gouttes d'alcool. Et il s'est rendu compte que pour qu'un buveur soit véritablement délivré de son esclavage, il faut un engagement à vie. Et alors, bien sûr, ceux qui vont devenir militants dans le mouvement, qui prend le nom de Croix Bleue. Pourquoi Croix Bleue ? Parce que c'est le décalque, si vous voulez, du drapeau suisse. Rocha est un Suisse, et le mouvement de la Croix Bleue né en Suisse. Le drapeau suisse, vous savez, c'est une croix blanche sur fond rouge. C'est les premiers confédérés qui avaient choisi ce symbole, qui était d'ailleurs tiré directement de l'Évangile. La croix blanche, c'était la pureté que le Seigneur donne à celui qui se repent de ses péchés. Et le rouge, c'était le sang du Christ, c'est pas le sang du Christ qui purifie de tout péché. Bon. Henri Dunant, quand il a fondé la Croix-Rouge, a repris aussi le symbole du drapeau suisse, mais a renversé, si vous voulez. C'était le fond qui était blanc et la croix qui était rouge. Rocha, lui, reprend aussi le même symbole, mais il garde un fond bleu et la croix bleue, d'où le nom de Croix Bleue, n'est-ce pas, qui est donné à ce mouvement. Alors ça, c'est le premier point, c'est donc ça, l'abstinence. Et le deuxième point, c'est l'annonce de l'Évangile. Parce que Rocha constate que le buveur est quelqu'un qui a un problème spirituel. Finalement, quand on remonte, le buveur a un problème spirituel, d'où découlent tous les autres. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de guérison efficace s'il n'y a pas justement une découverte de quelque chose qui peut remplir ce vide spirituel que tout naturellement, évidemment, le pasteur Rocha trouve dans l'annonce de l'Évangile. Là aussi, M. Nick, qui est confronté tous les jours avec l'énorme ravage que provoque l'alcoolisme parmi les populations ouvrières du nord de la France, parce que ces gens-là qui n'ont aucune espérance, essayent d'oublier leur situation en se jetant à corps perdu dans l'alcoolisme. Et l'alcoolisme, avec tout son cortège de ravages, qui d'abord pompe les maigres économies de ces gens-là, qui laisse sur la paille femmes et enfants, souvent lesquels, quand le père rentre ivre, sont brutalisés, battus, etc. Et devant cette détresse, le père Nick entend réagir, et dès qu'il apprend l'existence de la Croix Bleue, eh bien, il va aussi créer donc un mouvement de la Croix Bleue à Lille, à Fively. Les choses ne s'arrêtent pas là. Et M. Nick va aussi se rendre compte surtout de la détresse des enfants. C'est quelque chose qui le touche vraiment beaucoup, plus encore que des adultes. Alors il a donc à la fois ses classes d'école du jeudi, le mouvement des éclaireurs et des éclaireuses, mais il n'est pas satisfait. C'est l'époque aussi où on commence à priser dans la société les bains de mer, le début du siècle, n'est-ce pas ? Se créent un peu partout, sur les côtes françaises, des sociétés des bains de mer, comme on les appelle à cette époque-là, qui sont les ancêtres du tourisme moderne. Et bien sûr, ces bains de mer, qui au début sont censés avoir des vertus thérapeutiques, alors évidemment ça fait un peu sourire aujourd'hui, on est à la belle époque, ce qu'on appelle la belle époque, alors les adeptes des bains de mer, qui sont des grands bourgeois, des grandes villes, alors il y a les côtes normandes qui sont les plus réputées pour les bourgeois de Paris, Deauville en particulier, c'est Deauville, le Touquet, enfin tous les environs de la côte normande, sont le noyau d'où va naître justement ce mouvement. Et puis Lille, évidemment, qui est une ville aussi bourgeoise pour ce qui est des patrons d'industrie, et qui va avoir sa société des bains de mer alors sur les côtes du Pas-de-Calais, Dunkerque, enfin, essentiellement les environs de Dunkerque. Bon. Alors les bourgeois vont là-bas, alors il faut voir les élégantes de l'époque, hein, on est loin du monokini. Ils ont des vêtements qui vont jusque là et puis qui vont jusqu'aux pieds, espèce de pantalon bouffant. Et puis alors, ces dames sont traînées dans des espèces de petites cabines fermées pour qu'on les voit pas, hein, traînées par des chevaux dans la mer. Alors, il y a des trous qui permettent à l'eau d'entrer dans la mer. Le cheval fait un tour dans la mer et promène la petite cabane sur des roues. Il y en a encore dans les expositions qui montrent, si vous voulez, l'origine des bains de mer. Les messieurs aussi ont des costumes rutilants, de la tête aux pieds. Montrer ses coudes, c'est une preuve d'indécence. Vous voyez, on est bien loin de ça aujourd'hui. Et alors, naît l'idée de... des vacances, les vacances au bord de la mer, les vacances sur les plages naissent à ce moment-là. Et M. Nick se dit, après tout, pourquoi est-ce que les bourgeois seuls auraient droit à ce genre de privilège? Après tout, mes petits enfants de prolétaires, là, auraient bien droit à ça aussi. Et alors, il a un projet fou qui est de créer une première colonie de vacances à Dunkerque. Et pour cela, il s'agit pour lui d'acheter un hôtel désaffecté. D'abord, il va acheter une grande maison bourgeoise. Il n'a pas un sou, bien sûr, on sait bien. D'ailleurs, M. Nick n'avait jamais un sou sur lui, il donnait tout. Il était connu pour ça. Il vivait dans une simplicité spartiate, et tout ce qu'il avait, il le donnait. Et on raconte un jour, enfin, on raconte beaucoup d'histoires sur la générosité de M. Nick. Il avait un vieux manteau élimé, complètement usé, parce que il faisait pas attention, c'était pas important pour lui. C'était important, c'était de prêcher l'Évangile. Et un jour, deux dames de sa paroisse disaient quand même, on peut honte de notre pasteur de le voir dans ce costume-là. Alors elles s'étaient cotisées pour lui acheter un nouveau manteau. Seulement elles connaissaient M. Nick, et elles savaient bien que il n'accepterait pas qu'on lui fasse un cadeau qui avait coûté aussi cher, quoi, parce qu'un manteau neuf à cette époque-là, ça représentait une somme importante. Alors ces deux dames, qui étaient des chrétiennes pas très affermies, ont eu l'idée de faire un pieux mensonge. Elles sont allées acheter un beau manteau, un splendide manteau pour leur pasteur, et lui ont offert en disant « Ah oui, monsieur Nick, vous avez dû payer ça au double. Oh, »« Non, on a eu ça. Ah non, deux fois rien. » Et ils ont dit un prix dérisoire. Mentant donc effrontément. Un pieux mensonge. « Bien, si c'est ça, » dit monsieur Nick, « mais merci beaucoup, les remercie chaleureusement. » Et les dames bien contentes d'avoir fait une bonne œuvre, de voir leur pasteur. La semaine suivante, quelle n'est pas leur surprise de voir M. Nick avec son vieux manteau. M. Nick, votre manteau que vous a donné. J'ai vu un mendiant qui était là. Je lui ai donné en me disant qu'à ce prix-là, j'en aurais un autre facilement. Prise à leur propre piège. Quand M. Nick est mort en 1954, il est mort dans le dénuement le plus total. Et le lit sur lequel il est mort, dans lequel il est mort, était déjà donné. Et dès que j'aurais poussé le dernier soupir, a dit M. Nick, vous donnerez ce lit à un tel, etc. Il n'y avait plus rien dans la maison quand il est mort, il avait tout donné. Ça, c'est des hommes vraiment, vraiment exceptionnels. Et donc, il a donc voulu créer cette colonie de vacances. Bon, il a d'abord réussi à obtenir d'un riche... un de ses riches paroissiens, un peu d'argent pour pouvoir donc acheter une maison dans laquelle il a créé à Dunkerque une première colonie de vacances. Puis, évidemment, le nombre des enfants augmentant, il n'y avait plus de place dans cette maison. Alors il a visé carrément un hôtel, un grand hôtel, là, pour riches, qui se trouvait juste sur la corniche, enfin sur le front de mer là, de la grande plage de Dunkerque. Évidemment, ça coûtait un bon paquet d'argent. Alors, il dit, si on pourrait trouver cet argent, il priait, bien sûr. Puis, soudain, il a une idée. Il connaissait quelqu'un de riche, un riche protestant, qui se disait protestant très vaguement, un homme immensément riche. Il a fait une idée, il est allé chez lui, il sonnait à sa porte. Il dit, monsieur, vous êtes en principe chrétien. Oui, dit l'autre. Bon, écoutez, voilà. Si vous êtes chrétien, voilà ce que dit l'Évangile, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai des enfants qui sont dans la rue, qui ont besoin, etc. Bon voilà, si vous êtes chrétien, vous faites un chèque de temps tout de suite sur le champ. Il était comme ça. Et l'autre hésitait, etc. Et bon, Ben, l'autre était tellement convaincant, il se rendait bien compte que l'autre sortirait pas sans son chèque. Mais il lui a fait le chèque, quoi. Et M. Nick a pu acheter ce splendide hôtel, dans lequel il a créé en 1914, l'année où a éclaté la guerre, donc une colonie de vacances pour ses enfants. 1914, hélas, donc la guerre éclate. M. Nick est mobilisé, comme tous les Français de son âge. Il devient aumônier au 4e corps d'armée. Et là, il va se montrer d'un héroïsme et d'une bravoure extraordinaire. Non pas au combat, parce qu'en tant qu'aumônier, il ne combat pas, mais pour secourir justement les soldats blessés, etc. Et il sera même décoré de la Légion d'honneur. Ceux qui l'ont fréquenté affirment qu'ils n'ont jamais entendu prier pour la victoire. M. Nick était bien conscient que cette guerre était une folie et que, après tout, il n'y avait aucune raison pour que Dieu donne la victoire aux uns plutôt qu'aux autres. Et jamais, jamais, donc, il n'a prié pour la victoire. Et, par contre, il priait, évidemment, pour que la guerre s'arrête, pour que les souffrances des soldats soient abrégées, etc., etc. Pendant qu'il était au front, sa femme et sa fille faisaient marcher les œuvres qu'il avait créées. Et pendant cette période, l'aînée de ses filles, qui ne se mariera jamais pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, et elle s'appelle Hélène, sa fille aînée, va se consacrer à la création d'une troupe d'éclaireuses. Sa femme aussi va se dévouer corps et âme pendant l'absence de son mari. Et c'est lorsque la guerre se termine et que Henri donc rentre au foyer, que épuisé, n'est-ce pas, par le travail qu'elle a dû fournir pendant le temps de l'absence de son mari, les privations aussi, parce que toute cette région était directement sous le coup de la guerre, n'est-ce pas, sa femme meurt. Elle a 49 ans quand elle meurt, elle lui laisse 6 enfants, dont l'aîné à cette époque-là a 21 ans. C'est un coup très dur pour M. Nick. Il accuse vraiment le coup de la perte de sa femme. Et bon, pour remplacer sa femme, tenir la maison, etc., il embauche une servante, Sévenol, qui va l'aider. La vie de M. Nick sera marquée par de nombreux deuils dans sa famille. En 1927, un de ses gendres meurt. Pardon, un de ses fils, André, meurt de maladie. En 1933, un autre fils, qui est âgé de 37 ans, qui se nomme Paul, meurt également. C'est aussi un coup terrible pour lui que la mort de ce fils. En 1940, il perd un de ses gendres. Et en 1944, sa fille aînée, donc qui s'était tant dévouée, va décéder également. Si bien qu'à la fin de sa vie, M. Nick sera pratiquement seul. Il perd encore un autre fils qui s'appelle Pierre. Il est pratiquement sans famille. Et bien loin de l'abattre, ses coups du sort, même s'il accuse le coup sur le moment, l'incite à se dépenser d'autant plus sans compter pour la cause du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. C'est dans cette période-là aussi que M. Nick se trouve confronté avec un autre problème, celui de l'objection de conscience. Il a parmi les jeunes qu'il forme, parce qu'il a évidemment de nombreux collaborateurs, certains qui se lèvent pour le service de Dieu, qui se forment dans une faculté de théologie, puis qui reviennent l'épauler dans le service de Dieu, sur place. Il a un jeune qui se nomme Philippe Vernier, et qui décide de refuser de porter les armes. Donc, qui se porte objecteur de conscience. L'affaire Philippe Vernier a défrayé la France entière. C'est l'époque, vous savez, où l'objection de conscience, on est très nationaliste en France, très cocardier, et l'objection de conscience est vraiment, vraiment très, très mal vue. C'est un des disciples de M. Nick que ce Philippe Vernier-là, et il est arrêté. Il est destitué, emprisonné, un procès retentissant a lieu, qui, encore une fois, défraye la France entière. Le procès a lieu en 1933. Et c'est un avocat qui se nomme André Philippe, qui fera parler de lui aussi pendant l'occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans le service des Juifs, qui va défendre Philippe Vernier. Et là, M. Nick, lui, n'est pas pour l'objection de conscience. Il est contre. Mais il ne s'oppose pas non plus à la démarche de Philippe Vernier. Et finalement, après donc un combat juridique auquel M. Nick participera, même si, encore une fois, il n'approuve pas entièrement la démarche de son disciple, n'est-ce pas, Philippe Vernier sera acquitté. Philippe Vernier sera celui qui présidera ses obsèques, d'ailleurs. Et Philippe Vernier raconte avec un certain humour ce qu'était l'école à laquelle M. Nick soumettait les jeunes qu'il formait. Alors il les entraînait avec lui dans toutes ses activités, notamment celle qui était la plus redoutée, l'épreuve la plus redoutée des jeunes stagiaires, c'était la prédication dans les foires et les marchés. Ou dans les cafés aussi. M. Nick entrait dans les cafés, et là il montait sur une chaise au milieu du café, puis il ouvrait son Nouveau Testament, grec bien sûr, et puis il commençait à prêcher. Puis alors il faisait ensuite faire à ces jeunes des essais de prédication. Alors vous voyez, les jeunes sortaient frais émoulus de la faculté de théologie, un enseignement intellectuel, etc. Allez, à toi maintenant, à ton tour. Allez, vas-y, monte là-dessus, puis vas-y, prêche l'évangile. Et quand on se trouvait là-dedans, tous les gens qui vous regardaient, etc., ça faisait quelque chose. Alors, au bout de 5 minutes, ça va pas. Allez, descends là, tu sais pas faire, je vais te montrer. Puis remonter sur la chaise, puis recommencer. Au bout de quelques séances quand même, bon, le jeune faisait un peu des progrès. Puis de temps en temps, il s'égarait dans des considérations diverses, parce que pour amener à l'évangile, on essayait de prendre les choses de loin, on commençait à parler de la pluie du beau temps. Mais c'est pas ça. Allez, prêche l'évangile, c'est pas ça, prêche l'évangile. Et ça a été l'éloge funèbre qu'a fait donc Philippe Vernier pour les obsèques de M. Nick. Il a dit, voilà, il parlait de lui, bien sûr, et M. Nick était comme ci, comme ça. Puis il dit, voilà, maintenant il faut que je m'arrête de parler de lui. Parce que si je m'arrête pas, Père Nick va sortir de sa boîte, il va me dire, Philippe, prêche l'évangile. Alors il a terminé en prêchant l'évangile. Ça, c'était tout M. Nick, à la fois dans un côté humoristique, il y a beaucoup d'humour, et puis un très très grand sérieux, très très grand sérieux dans les choses de Dieu. Donc, il a acheté c'est en 1924, après la guerre, qu'il a acheté le grand hôtel dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui donc avait reçu un don de 4000 francs de l'époque pour cela. Et en 1955, donc un an après sa mort, à la fin de cette période-là, à la fin de sa vie, cet hôtel était devenu trop petit pour les différentes activités qui étaient les siennes. Il avait été entré en service qu'en 1936 parce qu'il avait fallu le mettre en état pendant plusieurs années. Et un an après sa mort, donc un autre hôtel a été acheté beaucoup plus grand à Boulogne-sur-Mer, donc à quelques distances de là. M. Nick n'a pas connu, mais il avait lancé le projet. C'était lui qui avait lancé le projet. M. Nick était aussi un musicien de grand talent. Et à l'image de ce qu'il y avait dans l'armée du salut, il avait une fanfare, évidemment. Il avait monté une fanfare avec tous les enfants qui défilaient dans les rues pour annoncer les réunions, pour attirer l'attention des gens avant qu'ils ne prêchent l'évangile. Mais cette fanfare était devenue ensuite un orchestre, un véritable orchestre. Il y avait un orchestre et ils ont même monté le Messie, une représentation de l'intégrale du Messie. Vous imaginez ça, dans les milieux populaires du nord de la France, créer une représentation intégrale du Messie d'Endel. C'était l'époque aussi où différents mouvements, il y avait une grande effervescence politique entre les deux guerres mondiales. Bon, à la fois, évidemment, dans le nord de la France, il y avait les partis rouges, socialistes, communistes, etc., trotskistes, anarchistes. Mais c'était aussi l'époque où il y avait des mouvements fascistes, les Croix de Feu, les Camelots du Roi, les rexistes qui venaient de Belgique, mais qui étaient tout proches, puisque tout près de la frontière belge. Et ces gens-là tenaient des réunions. M. Nick y assistait à toutes, et il apportait la contradiction. Quand les partis d'extrême droite avaient fait leur speech, lui montait sur la chaise et puis contredisait. Et puis il prêchait l'évangile. qu'il s'en soit sorti quelquefois indemne, qu'il ait pris quelques orions quelquefois, ne m'étonnerait pas. Mais enfin, pour M. Nick, ce n'était pas un problème extraordinaire que celui-là. Là-dessus, donc, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale va donner l'occasion à M. Nick aussi de ne pas rester inactif, loin s'en faut. Et M. Nick va à fond entrer dans les réseaux de résistance pour cacher ceux qui sont traqués. Alors, indifféremment, évidemment, il cachera aussi bien des communistes, des résistants, que des juifs. De nombreux juifs doivent la vie à M. Nick. Et M. Nick aura donc aussi des récompenses importantes après la guerre pour l'action qui aura été la sienne dans la résistance. Et il était lui-même au bénéfice, j'ai dit tout à l'heure, de ses réveils, de l'armée du salut, du pays de Galles aussi. Il était très proche de la brigade missionnaire de la Drôme. Et à plusieurs reprises, il avait invité justement les brigadiers dans la région du Nord. Il avait participé, par exemple, aux Journées du Christ de Dunkerque, auxquelles les brigadiers étaient venus apporter leur contribution, et puis d'autres manifestations au cours desquelles les brigadiers étaient venus dans la région du Nord. Il était très, très proche de ces gens-là. Et alors, après la guerre, M. Nick, autant il avait combattu les Allemands pendant qu'ils étaient forts, autant maintenant il va, au contraire, intervenir auprès des prisonniers allemands. Après la débâcle allemande, les collaborateurs qui sont emprisonnés, jugés parfois sommairement, abattus sommairement, eh bien, il va leur porter secours. Il va prendre leur défense, il va soutenir les condamnés à mort, il les assiste jusque dans leur dernier moment, etc., les collaborateurs qui sont fusillés, etc., etc. Monsieur Unique était un homme qui avait une grande ouverture d'esprit. Nous avons vu que il était très ouvert à tout ce qui était les réveils, le réveil des brigadiers de la Drôme, et puis après la guerre, au pentecôtisme. Alors que les brigadiers de la Drôme, nous l'avons vu, s'étaient au contraire fermés au pentecôtisme, lui va rester extrêmement ouvert. Et il va avoir des contacts nombreux avec les églises de Pentecôte qui s'implantent à cette période-là dans le nord de la France. À cette époque-là, il a déjà 65 ans. Et donc, se remettre en question à cet âge-là, c'est assez exceptionnel. Mais très vite, M. Nick va prendre des distances avec les Assemblées de Dieu, en particulier en ce qui concerne leur sectarisme. Lui, au contraire, est un homme ouvert, et il va de plus en plus avoir de mal à supporter le sectarisme, justement, des pentecôtistes. Il critique ce qu'ils appellent leur séparation d'avec le monde. Monsieur Glick est tout à fait d'accord avec la séparation d'avec le monde. Lui-même prêche contre la mondanité. Mais il se rend très vite compte que que les pentecôtistes appellent la séparation d'avec le monde est en fait la séparation d'avec les autres églises, d'avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, etc. Et c'est pourquoi il va prendre ses distances. Par contre, il va se rapprocher des baptistes qui, dans les années 50, vont connaître le baptême dans le Saint-Esprit, notamment des baptistes autour de gens comme de pasteurs comme Jean Werner, comme Jules Taubois, qui à cette époque-là est à Denain, donc non loin de Lille, qui va d'ailleurs ouvrir quelque chose à Lille dans ces années-là, avec sous la direction d'un riche industriel lillois, Monsieur de Wilde. Et le Pernic appuie à fond alors cette implantation des baptistes à Lille, alors que précisément ce sont des gens qui pourraient lui paraître comme des concurrents, mais pas du tout. Malheureusement, il est déjà très âgé à cette époque-là, et la collaboration sera de courte durée, puisque le réveil vient en 1950 chez les baptistes du Nord, et M. Nick meurt en 1954. Donc c'est tout à fait la fin de sa vie, mais enfin là il y a comme un flambeau qui se transmet, si on peut dire de cette manière-là. Monsieur Nick était un homme de prière. Il passait souvent des nuits de prière tout entière. C'était un homme qui était à la fois doux et rude. Il avait cette rudesse dont je parlais tout à l'heure. Il disait à ses stagiaires, il descend là, tu sais pas faire, etc. Mais en même temps, c'est un homme extrêmement désintéressé, j'en ai donné quelques exemples aussi, et un homme aussi d'une très très grande humilité. C'est un homme qui avait une grande culture, qui avait une grande intelligence, qui a fait des choses remarquables, dont la vie a été marquée par des réalisations à faire pâlir d'envie plus d'un pasteur, mais c'est un homme qui savait rester extrêmement humble. Et tellement que, je disais tout à l'heure, il était prêt à reconnaître et accueillir des gens qui n'étaient pas de son église, qui n'avaient pas tout à fait obligatoirement la même vision que lui, n'est-ce pas, mais qui l'ont amené à collaborer quand même avec eux. Alors, il meurt à 86 ans, en 1954. Malheureusement, comme c'est le cas, évidemment, dans des situations de ce type-là, eh bien, l'œuvre ne sera pas véritablement reprise. Les successeurs de M. Nick n'auront pas son envergure. Et notamment, l'Église réformée va remettre la main sur... Bon, son principe, c'était quelque chose qui dépendait de l'Église réformée et de la mission populaire. Mais la mission populaire était quand même, à cette période-là, donc après la Deuxième Guerre mondiale, à fond dans le giron de l'Église réformée. Et alors, la mission populaire va connaître à ce moment-là un virage très, très négatif. Notamment, justement, une politisation. Politisation que M. Nick avait toujours refusée. Et il voulait rester absolument en dehors de la mêlée, même si ça lui arrivait d'aller contredire les croix de feu ou les camelots du roi. Il n'était pas d'accord avec les communistes, il n'hésitait pas. Il avait des controverses monumentales avec les communistes. Bon, on a vu prendre parti pour les résistants, puis après donc venir au secours aux Allemands et aux collaborateurs après la guerre. Ça peut paraître contradictoire, mais c'était parfaitement logique dans sa vision des choses. Après la guerre, et après lui, je veux dire, ses successeurs, vont confondre, comme c'était d'ailleurs la tentation après la Deuxième Guerre mondiale dans bien des milieux d'église, l'évangile et la politique marxiste. Il va y avoir une marxisation de tous ces mouvements d'évangélisation populaire, sauf l'Armée du Salut, à cette période-là, mais en tout cas, les mouvements comme la mission McHall, qui devient à cette époque-là. Va se confondre avec la lutte politique, sociale d'abord, puis ensuite politique. La part de l'Évangile se restreint au fur et à mesure que justement l'engagement social et politique s'intensifie, alors que pour M. Nick, ce qui était premier, c'était d'abord l'annonce de l'Évangile, et après, donc, on a porté un secours matériel à ceux qui en avaient besoin, comme c'était exactement la vision de William Booth, pas l'Armée du Salut. Mais les successeurs, donc, auront cette dérive dans laquelle, hélas, la mission populaire est restée jusqu'à ce jour. Alors, c'est regrettable. Il est certain que les baptistes essaieront de reprendre un petit peu ce qu'avait été la vision de M. Nick, mais malheureusement, le réveil baptiste à cette période-là, on aura l'occasion de le revoir, les déborde très vite, déborde leurs moyens sur le plan géographique. Un homme comme Jules Taubois, par exemple, est quand même à 50 km de Lille. Le problème, c'est de suivre la progression des œuvres. Et dans le milieu baptiste, on n'a pas toujours des hommes qui ont l'envergure nécessaire pour reprendre ce qui est ainsi créé. Ça va être le gros problème du réveil baptiste. Et finalement, l'œuvre baptiste périclitera dans les années 70, au début des années 70, et jusqu'à ce que vienne un jeune de Roubaix, David Berly. David Berly est fasciné par la personnalité de M. Nick, et il entend reprendre ce qu'a été les activités de M. Nick. Il va essayer de se déployer donc tous azimuts, comme a fait M. Nick en son temps. Donc, scoutisme, foyers divers pour les malheureux, évangélisation de rue, etc. Bon, il y a un côté très très positif, il y aura un bus anglais qui servira de coffee bar, c'est l'époque des coffee bars, etc. Malheureusement, deux choses vont jouer, n'est-ce pas ? D'une part, c'est que quand même David Berly n'a pas tout à fait l'envergure de M. Nick. Deuxièmement, va s'introduire dans les années 70 l'église spectacle, notamment sous l'influence de Jeunesse en Mission. Et l'évangélisation de rue va dégénérer en spectacles, mimes, clowneries diverses qui vont être donnés justement dans les rues piétonnières de Lille. Et puis alors ensuite, il va y avoir aussi un engagement sociopolitique. Finalement, David Berly va tomber dans les mêmes travers. que ceux dans lesquels étaient tombés des gens comme Philippe Bernier et les successeurs immédiats de M. Nick, de la mission populaire. Il va y avoir un engagement politique très poussé auprès de Pierre Mauroy, par exemple. Et puis malheureusement, évidemment, cela se terminera, hélas, dans le scandale moral, comme on le sait. Donc, hélas, les choses sont arrivées à être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et actuellement, les baptistes essaient de reprendre aussi difficilement, redémarrer une œuvre sur des bases beaucoup plus classiques que celles qui avaient été lancées par M. Nick, qui était un homme inorthodoxe, comme sont souvent les hommes de Dieu, n'est-ce pas ? Mais quand on n'a pas cette envergure-là, il est certain qu'il vaut mieux parfois reprendre quand même une vision plus orthodoxe des choses. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de cette évangélisation, cette première évangélisation donc, du nord de la France avant l'arrivée des pentecôtistes et des baptistes. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Bien, alors on va commencer justement ce nouveau chapitre, il nous reste quelques minutes encore, qui est l'histoire du pentecôtisme en France. L'histoire du pentecôtisme en France, évidemment, s'insère dans l'histoire du pentecôtisme en général, du pentecôtisme dans le monde, histoire que nous aurons l'occasion de reprendre un petit peu en feedback, si j'ose dire, mais nous allons nous concentrer pour l'heure à l'étude du mouvement de Pentecôte en France et de ses prolongements au travers de ce qu'on a appelé le réveil charismatique, le mouvement charismatique ou le renouveau charismatique, comme disent les catholiques. Dans les années 60, un théologien américain d'origine hollandaise, Van Dessen, disait que le pentecôtiste était devenu, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 60, la troisième force du christianisme. Il voyait le catholicisme, le protestantisme, curieusement, il oubliait l'orthodoxie, et puis il voyait ensuite le pentecôtisme. Et il y a effectivement aujourd'hui des millions de pentecôtistes dans le monde. Le pentecôtisme, très rapidement, on aura l'occasion d'y revenir, mais je suis quand même obligé de faire une petite rétrospective pour que on sache un petit peu se situer, est un phénomène qui est né aux États-Unis, donc tout à fait au début du siècle. Il était indirectement le produit de la guerre de sécession. La guerre de sécession qui avait fait passer l'Amérique d'une société agricole et commerciale à celui d'une société industrielle et technologique. Et dans cette grande mutation qui avait marqué la guerre de sécession, la guerre civile, comme disent les Américains, ils n'appellent pas la guerre de sécession, mais la guerre civile, la religion avait pâti considérablement de cette évolution de la société. Le libéralisme, la critique biblique, les problèmes des sources du Pentateuque, tout ça avait pénétré dans les églises américaines, l'école de Tübingen, de Wellhausen, l'idée que les évangiles étaient bourrés de mythes, en même temps que le matérialisme et l'accroissement des richesses avaient produit un grand embourgeoisement des églises américaines. Et comme par réaction contre cette évolution des églises américaines et de la société en général, sont apparus à la fin du siècle dernier ce qu'on appelle les mouvements de sainteté. Les mouvements de sainteté, qui étaient issus souvent du méthodisme, partaient de l'idée que la véritable Église est invisible et se créaient, à l'image de ce qui s'était passé au moment des réveils de Zinzendorf, des ecclesiolae in ecclesia, c'est-à-dire des petites églises dans la grande Église, c'est-à-dire des petits groupes qui se réunissaient de manière plus ou moins informelle pour rechercher ardemment la sanctification. Il se rendait compte que la société était en train de dériver dans la mondanité, dans le péché, etc. Et les mouvements de sainteté étaient un appel à se séparer de cette évolution négative pour rechercher la sanctification. C'est ainsi que le pasteur Parker, qui était à l'origine du mouvement de Pentecôte, a d'abord été pasteur d'une église congrégationaliste, puis d'une église méthodiste, dont il s'est séparé d'ailleurs à cause de son étroitesse d'esprit, mais qui était marquée par justement les mouvements de sainteté. En 1800, à la fin du siècle, il était devenu évangéliste itinérant, et il était tout à fait interpellé par la question de la parousie et du retour du Seigneur. Il était persuadé qu'avant le retour du Seigneur, il y aurait un dernier grand réveil. Un dernier grand réveil qui toucherait le monde entier. Il partait de la prophétie de Joël, citée par Pierre de la Pentecôte. « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est ainsi donc qu'est né le pentecôtisme, l'histoire du pasteur, l'histoire du pasteur Parham, nous aurons l'occasion de la revoir quand nous traiterons de l'histoire du protestantisme américain. Mais je cite simplement le pasteur Parham et l'origine du pentecôtisme aux États-Unis pour mémoire. Et nous arrivons maintenant en France, nous revenons en France donc au début du siècle, et notamment dans les années de la pré-première guerre mondiale, qui sont marquées par la grande crise économique de 1929. C'est l'époque où un jeune évangéliste anglais part pour la France, envoyé par le Saint-Esprit. Il est conscient que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Il se nomme Douglas Scott. Il est originaire d'une des deux églises pentecôtistes qui est née à la suite justement du réveil américain, du réveil de la rue Azusa, du réveil californien, et qui s'est répandu en Angleterre, comme nous aurons l'occasion de le voir. Ça, c'est pareil, on fera un petit peu de feedback quand on reviendra à l'histoire du pentecôtisme anglais. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, disons, dans les pays britanniques, il y a deux grandes églises pentecôtistes, même trois, si on peut dire, les Assemblées de Dieu, les apostoliques, l'église apostolique, et enfin une église qui est spécifique aux îles britanniques, les églises dites d'Ilim, du nom de l'endroit où les Israélites avaient campé au moment de l'Exode, Elim en hébreu, mais ça se dit Ilim en anglais, où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Ces églises avaient été fondées par George Jeffreys, qui s'était séparé pour des raisons diverses des Assemblées de Dieu et qui avait créé donc un mouvement pentecôtiste qui avait son identité propre. Douglas Scott était originaire de ces églises d'Ilim, mais il n'était pas, comment dirais-je, sectairement arrêté à ces églises-là, puisqu'il va être finalement le fondateur des Assemblées de Dieu de France, qui était finalement le mouvement rival des églises d'Ilim en Angleterre. C'est une des contradictions du pentecôtisme. Le pentecôtisme est issu aussi du romantisme. C'est un petit peu, on peut faire un rapprochement, qui insistait sur les sentiments en réaction contre le rationalisme et par conséquent une piété qui était qui faisait appel énormément aux sentiments. C'est peut-être pas toujours ce qu'il y a eu de meilleur d'ailleurs dans le pentecôtisme. Enfin, ça, il faut quand même noter cet apport-là qui explique justement parfois une certaine exubérance qu'on trouve dans ces milieux-là. Avant Douglas Scott, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'influence pentecôtiste en France. Le pentecôtisme était né donc au début du siècle dans les pays anglo-saxons, puis ensuite était venu en Norvège avec Tibi Barat. Et puis de là, il y avait eu quelques individus isolés qui avaient connu la Pentecôte dans un de ces pays-là et qui étaient venus en France y prêcher timidement, justement, le nouveau mouvement. En 1906, par exemple, sous l'influence du réveil du Pays de Galles, qui avait d'ailleurs été le détonateur du pentecôtisme en Angleterre, par la suite, qui s'était prolongé par le pentecôtisme en Angleterre, sous l'influence du réveil du Pays de Galles, un Écossais du nom de John Alexander avait fondé en Suisse ce qu'il avait appelé l'Action biblique, qui n'était pas véritablement pentecôtiste, mais qui était marquée par, en tout cas, le réveil du Pays de Galles, et qui, par la suite, deviendra très anti-pentecôtiste. Bon. En 1926, un apostolique, un jeune évangéliste apostolique gallois, qui s'était converti dans le mouvement justement qui avait suivi le réveil du Pays de Galles dans cette région, arrive en France. Il se nommait Thomas Roberts. Et il arrive convaincu que le Seigneur l'appelle pour la France. Il a reçu une prophétie très nette lui disant que son ministère serait essentiellement pour la France et les pays francophones. Il arrive à France sans connaître un mot d'anglais. Il se fait reconnaître comme pasteur des églises réformées. L'église réformée, il va devenir second pasteur dans la grande église réformée parisienne de Passy, où il va s'occuper d'une petite annexe de cette église de Passy qui se trouve située rue de Musset. Rue de Musset. Et par la suite, on aura l'occasion de revoir sur le fait que Thomas Roberts va développer cette œuvre dans la vision pentecôtiste, vision qui ne plaira pas aux pasteurs de l'église, de la grande église bourgeoise de Passy. C'est l'époque où l'église réformée aussi, à la suite des problèmes qu'il y a eu avec la brigade, on a vu ça la dernière fois, a pris position contre le pentecôtisme, tant et si bien que Thomas Roberts est obligé de rompre avec l'église réformée. Par conséquent, il quitte l'église réformée avec la petite œuvre de la rue de Musset dont il est responsable et qu'il établit en église indépendante. Bon, ça c'est les premiers pas du pentecôtisme en France, si on peut dire. Dans le même temps, un pasteur indien, qui est le fils d'un pasteur méthodiste, qui se nomme Benjamin Selvaratnam, arrive également en France. Il est amené à prendre des dispositions, prendre des contacts avec différentes églises françaises. Et finalement, ses premières tentatives sont plutôt négatives. Thomas Roberts échoue d'une certaine manière dans l'église de Passy. Bon, la séparation de la rue de Musset datera de quelques années plus tard, quand déjà Scott sera en France. Donc on ne peut pas dire que c'est la première implantation en France. Enfin, c'est la première tentative, disons. Benjamin Selvaratnam échoue également, finalement. Arrive aussi un jeune Danois qui se nomme Ove Falg, qui lui aussi donc prend contact avec ses premiers pionniers du pentecôtisme. Mais c'est pareil, lui-même est à peine converti, il n'a pas encore les moyens d'intervenir. Par contre, l'essor du pentecôtisme va avoir pour premier instrument une demoiselle qui se nomme une Suissesse, qui se nomme Mademoiselle Biolay, qui est une fille d'ingénieur dont le père est rationaliste, mais sa mère se convertit. Elle-même, Mademoiselle Biolay, se convertit très jeune. Elle milite à la Croix-Bleue et elle entend un jour, enfin elle sent un appel sur son cœur de venir en France. Et là, elle va s'installer au Havre, où elle achète un hôtel qu'elle va établir en bar sans alcool, bar de tempérance, qu'elle va appeler le Ruban Bleu. Le Ruban Bleu, c'est une allusion, à cette époque-là, à la Compagnie Générale Transatlantique, qui est implantée au Havre, et dont les paquebots font la traversée entre le Havre et New York, et qui rivalise avec des compagnies américaines, anglaises ou autres pour faire le trajet Le Havre-New York dans le délai le plus court possible. Le paquebot qui a réussi à faire le trajet dans le temps le plus court possible obtient ce qu'on appelle le ruban bleu. Et à cette époque-là, le ruban bleu est tenu précisément par un paquebot français, le Normandie, de telle sorte que, en hommage à la Compagnie Générale Transatlantique, Mademoiselle Biolay appelle son restaurant le Ruban Bleu. C'est un hôtel où elle accueille notamment de très nombreux missionnaires qui précisément transitent par le Havre venant des États-Unis à destination de l'Afrique ou à destination de la France ou à destination de certains pays d'Europe. Ainsi, le Ruban Bleu va devenir au Havre une plaque tournante de l'Évangile. Non seulement il y a un bar sans alcool, mais il y a également aussi des réunions de prière qui sont animées, si j'ose dire, par différents pasteurs ou évangélistes de passage. Et Mademoiselle Biolay coordonne tout cela. Et c'est là donc que va naître l'œuvre pentecôtiste en France. On verra ça la prochaine fois. Bien, si vous avez des questions à poser là-dessus.